Parlant d'enfants ce matin, c'est bon. Merci Seigneur, qu'ils vont avoir un bon temps dans leur classe, ils vont apprendre des belles choses, ils vont être équipés. On appelle la classe pour les 6 à 12 ans, 7 à 12 ans, on les appelle les héros en herbe. Parce qu'on croit que ce sont les héros de la foi en formation. Amen. C'est eux autres qui vont aller faire des exploits pour la gloire de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu ce matin? J'espère que oui. J'espère que vous avez amené une Bible avec vous. Sinon, vous avez sûrement reçu une feuille à la porte. Sinon, levez votre main et un placier va vous donner une feuille avec presque tous les versets qu'on va voir ensemble ce matin. Mais j'ai hâte de partager le message. On va continuer notre série sur l'amour de Dieu, la voie par excellence, qu'est-ce qu'on appelle la route 1231. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la route 1231? Et on a même ici un petit panneau de route qui est marqué 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. C'est parce que Paul a dit, 1 Corinthiens 12, 31, que je vais encore vous montrer une voie par excellence. Tout le monde dit une voie par excellence. C'est pas médiocre, c'est excellent. C'est pas comme si comme ça, c'est excellent. C'est la seule route qui va vous amener là où vous voulez aller dans votre vie. C'est la seule route qui va vous amener à votre destinée dans le Seigneur. C'est la seule route qui va assurer une protection divine. C'est la seule route qui va assurer une provision abondante. Toutes ces choses qu'on a déjà vues à travers les semaines. Déjà, on est rendu aux 6e semaine de cette série. Et on a vu tellement de belles choses concernant la route 1231 qui est la voie par excellence, qui est la voie de l'amour. Et qu'est-ce qu'on a appris? C'est que l'amour de Dieu, selon Romains chapitre 5, verset 5, est déjà répandu dans tous les cœurs de tous les croyants par l'Esprit Saint. N'est-ce pas merveilleux de savoir que quand Dieu nous demande à faire quelque chose, il nous donne la capacité de le faire aussi? Amen? Et peu importe qu'est-ce que Dieu nous demande à faire, des fois, il peut nous sembler impossible, ou trop difficile, ou trop d'obstacles, c'est trop d'efforts. Mais non, quand Dieu nous demande à faire quelque chose, il nous donne l'équipement nécessaire pour accomplir sa volonté. N'est-ce pas bon? C'est-à-dire qu'on peut marcher dans l'amour. Quand Dieu dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle, c'est-à-dire que, messieurs, on est capable d'aimer nos épouses d'une façon si grand, si profond qu'on serait même prêt à donner notre vie pour nos épouses. On est capable de le faire. Quand la Bible dit « Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné », on est capable d'offrir le pardon à la pire des pécheurs, la personne qui nous a fait le plus tort, la personne qui nous a blessé le plus, on est quand même capable de pardonner. Même si notre tête, même si nos émotions nous disent « Oh, ça serait trop difficile. » Non, on est capable. Je suis tout par celui qui me fortifie. Amen. Et si on reste sur cette route d'excellence, si on marche dans l'amour, on va faire la volonté de Dieu. On va arriver à notre destinée. On va être béni et on va être une source de bénédiction pour les autres. Amen. Mais ce matin, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les choses concernant comment se conduire sur la route 1231. En fait, on va voir quatre consignes ou quatre règlements, on pourrait dire, de la route 1231. Le code de conduite, si vous voulez, de la route 1231. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on se maintienne dans l'amour de Dieu. Qu'on commence à marcher dans l'amour, qu'on continue à marcher dans l'amour et qu'on finit nos vies en marchant dans l'amour les uns avec les autres. Combien de vous, vous êtes d'accord qu'il n'y a rien de plus important que de marcher dans l'amour? Paul l'a dit, tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, tu peux faire toutes ces autres choses, tu peux même déplacer les montagnes avec une grande foi, mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Absolument rien. Donc là, on voit combien il est important. Mais juste pour commencer, je vous invite à aller avec moi en Éphésiens chapitre 5 et verset 15. Si vous voulez regarder dans vos Bibles ou dans vos notes, Éphésiens chapitre 5 et verset 15. La parole de Dieu dit, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Combien de vous, vous êtes content que sur la route naturelle, sur l'autoroute 55 et sur la 20, qu'il y a des lois qui sont en place, il y a des règlements qui sont en place, et ces règlements sont là pour nous protéger. Et moi, je suis content. Moi, j'aime pas faire la route avec les fous à côté de moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? C'est ça l'affaire. Moi, je peux être un bon conducteur, vous pouvez être un bon conducteur, mais si l'autre personne qui est en arrière du volant est un fou, votre vie est quand même en danger. Vous êtes d'accord? Et c'est là où on va voir ce matin que même si on ne peut pas contrôler les actions des autres, au moins nous pouvons faire tout notre possible pour se conduire sur la route du 31, pour marcher dans l'amour, selon la parole de Dieu, afin d'arriver à notre destinée. Donc, il y a un autre verset, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1, qui dit au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, encore vous pouvez souligner le mot vous conduire, et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Pourquoi est-ce que c'est important de voir cela? C'est parce que, au cas où il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, mais pasteur, je sais déjà toutes ces choses. Je sais déjà qu'il faut marcher dans l'amour. Je sais déjà qu'il faut rester sur la 1231. C'est pas qu'est-ce que tu sais qui fait la différence, c'est qu'est-ce que tu fais. Et ici, la Bible nous exhorte de le faire de progrès en progrès. C'est-à-dire que si vous avez débarqué de la 1231 10 fois dans les dernières 12 mois, dans l'année qui s'en vient, il veut que ça soit réduit à 5 ou à 4 ou à 3. Et notre but, c'est que éventuellement, on va apprendre à rester continuellement sur la 1231 sans jamais, jamais prendre des sorties. Est-ce que ça vous tente d'arriver à une place où vous ne broncherez plus jamais dans votre marche avec le Seigneur? Savez-vous que c'est possible? Savez-vous qu'il y a des personnes qui croient qu'on est obligé de pécher au moins une fois par journée, et c'est juste, c'est normal qu'on va tomber régulièrement. Mais selon la parole de Dieu, c'est pas du tout qu'est-ce que Dieu nous enseigne. En fait, 2 Pierre chapitre 1 nous enseigne autrement. C'est pas dans vos notes, mais j'ai dans mon esprit de le partager là. Je vais le lire pour vous. 2 Pierre chapitre 1 et verset 3. Si vous avez une Bible, tournez avec moi et regardons cela. Moi, je sais que si vous prenez ce message à cœur, si vous mettez ce message en pratique, votre vie sera transformée. Vous allez avoir beaucoup moins de chicanes avec votre conjoint, avec vos collègues au travail. Vous allez avoir beaucoup plus de paix. Vous allez vivre davantage dans la prospérité. Vous allez avoir beaucoup plus de santé, même dans votre corps physique. Parce que vous allez être bien dans votre peau. Amen? Est-ce que combien de vous, ça vous tente? Hein? Je sais pas, hein? Il y a beaucoup de gens ici qui veulent vivre dans la misère, vous. Combien de vous, vous voulez vraiment vivre dans la paix, dans la joie, dans la santé, dans la prospérité? Amen! C'est la route par excellence. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 dit comme sa divine puissance nous a donné. C'est pas une chose qu'il va faire, mais il l'a déjà faite. Comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété. Alléluia. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Combien de vous savez que si vous êtes en Jésus-Christ, que vous êtes participants de la nature divine? C'est-à-dire que vous ne pouvez plus dire « Je suis juste un pécheur sauvé par la grâce ». Si vous êtes vraiment en Jésus-Christ, vous étiez un pécheur. Si vous avez donné votre cœur à Jésus, vous avez été sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, pas par les œuvres. Personne ne peut se vanter. Amen. C'est juste par sa grâce, par sa miséricorde que j'ai été sauvé. J'ai été mort, mais maintenant je suis revenu à la vie en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Et je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, vous ne pouvez plus dire, mais la prochaine fois que vous piquez une crise, la prochaine fois que vous chicanez avec quelqu'un, la prochaine fois que vous êtes bête ou sec avec les gens, vous pouvez plus dire, mais tu sais, je suis fait de même. À moins que vous ne soyez pas encore né de nouveau. Mais si vous êtes né de nouveau, vous pouvez et vous devriez dire, mais non, je suis fait à l'image de Dieu. J'ai une nouvelle nature. J'ai la nature divine à l'intérieur de mon cœur. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez encore la chair. Il faut dealer avec votre chair. Il faut crucifier votre chair. Mais dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre fort intérieur, vous êtes une participant de la nature divine. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et ça prend la nature divine pour rester sur la 1231, parce que la 1231 est réservée aux véhicules autorisés seulement, n'est-ce pas? Un non-croyant ne peut pas prendre la 1231. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau est dans l'impossibilité de marcher dans l'amour agapé. C'est au-delà de ses forces, au-delà de sa capacité. Il est dans l'impossibilité de le faire. Mais vous êtes capable. Parce qu'il vous a donné toutes les choses qui contribuent à la vie et à la piété. Toutes ces choses sont en vous. Et il y a un autre verset qui dit ici, que vous êtes participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et là, il va continuer à parler de l'importance de prendre cette nature divine et de la mettre en pratique. Et en verset 9, il dit, « Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne va pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus. » Tout le monde dit « autant plus ». Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous, quelques traductions disent, vous ne tomberez plus jamais. Je sais pas, hein? Mais vous devrez être heureux de savoir que vous n'êtes plus obligé de tomber dans le péché. Vous n'êtes plus obligé de brancher, plus obligé de donner place. Vous n'êtes plus redevable à la chair pour obéir à ses convoitises. Vous êtes une nouvelle création. Vous êtes capable de marcher sur la 1231 et rester sur la 1231. 24 heures sur 24 heures. 7 jours sur 7. 365 jours de l'année. Est-ce que je suis arrivé là? Pas encore. Moi, il faut, comme je l'ai dit, même en couple de semaines, j'ai avoué que cette semaine, moi aussi, j'ai sorti pour quelques minutes de la 1231. J'étais frustré avec une situation et j'ai pas réagi comme il faut et j'avais besoin de me repentir. Mais laisse-moi vous dire, ça change pas le fait que mon but, mon cible, c'est la perfection. Mon cible, c'est de marcher complètement dans les voies de Dieu 24 heures sur 24. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Alléluia. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui est si important. Quand on va parler de code de conduite sur la 1231, il y a certaines consignes, certains règlements, et on va regarder certains panneaux sur la 1231, quatre en fait, qui vont nous rappeler de ce code de conduite qu'il faut respecter. Et mon désir, c'est qu'à chaque fois que vous voyez dans le naturel un de ces panneaux, que vous allez vous rappeler de ce message ce matin. La prochaine fois que vous êtes en auto et vous voyez cela, vous allez dire, ah oui, c'est vrai. Il faut que je reste sur la 1231. Amen. Donc, c'est quoi le premier panneau qu'on voit ici? Défense de stationner. Sur la 1231, on ne peut pas se stationner. Parce que vous savez, il y a certains endroits où on peut. Il y a d'autres places où c'est défendu. Et si vous ne respectez pas la loi, c'est quoi là? C'est un remorquage à vos frais, n'est-ce pas? Ça va vous coûter cher si vous laissez votre char à une place où c'est pas supposé d'être. Et c'est la même chose sur la 1231. Si vous prenez une décision d'arrêter et de vous stationner, vous allez quand même payer cher pour cela. Vous allez payer cher parce que vous allez manquer la meilleure que Dieu a planifiée pour votre vie. Vous n'allez pas continuer à faire la route qu'il veut que vous fassiez pour rencontrer les personnes qui veut que vous rencontriez, pour développer les relations qu'il faut développer, ou pour faire les choses qu'il vous a demandé à faire. Donc, ça coûte trop cher de se stationner sur la 1231. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de continuer à grandir dans l'amour. On ne peut jamais arriver à une place où on dit, mais oh, voilà, ça fait déjà X années que je suis chrétien, je connais déjà la parole. Vous savez, il y a un phénomène, quelque chose qui arrive. Ça arrive dans le naturel. Vous savez que c'est quand même vrai que rendu à un certain âge, les enfants souvent sont aptes à apprendre, ils veulent apprendre, ils ont faim, soif d'apprendre des choses, ils vont souvent poser des questions. Maman, pourquoi? Papa, pourquoi? Maman, c'était quoi ça? Papa, qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Mais rendu en certain âge, je m'en souviens, je posais plus de questions à maman et papa. Hein? J'étais, parce que je savais tout. Et j'étais convaincu que mes parents ne savaient pas grand-chose à un moment donné. Hein? Rendu à peut-être un peu plus vieux, par exemple, je me suis rendu compte que, ah, mais là, ils ont vraiment grandi, mes parents. Ils ont commencé à apprendre des choses. Mais pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui arrive dans le naturel, souvent, un certain âge, même des fois, c'est pas toujours le cas avec avec l'adolescence. Je sais que j'ai passé par là. Mais savez-vous que spirituellement parlant, vous pouvez avoir la même chose? Spirituellement, on peut avoir quelqu'un qui vient au Seigneur Jésus, il est tout feu, tout flamme, il est content d'être à l'église. À chaque fois qu'on dit, hey, j'aimerais te montrer quelque chose dans la parole, il ouvre sa Bible, le pasteur prêche, et il va regarder dans les notes et regarder, fouiller dans la Bible. Mais rendu à un certain point, quelques années se sont déjà déroulées et le pasteur dit, on va ouvrir nos Bibles aujourd'hui à Jean 3,16. Et les gens disent, oh, ben Jean 3,16, franchement, je connais ça depuis des années. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais vous savez, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que si vous avez cette attitude, vous êtes stationné. Vous ne grandez plus, vous n'allez plus grandir. Vous ne grandez plus, hein? Je pense que ma langue a besoin d'être perfectionnée aussi. Ouais, j'ai besoin de grandir dans le perfectionnement de la belle langue française, n'est-ce pas? Que j'aime de tout mon cœur. Mais c'est vrai, par exemple, j'aime ça. Donc, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est qu'avec une attitude de « ben, je suis déjà arrivé », tu n'as plus rien à m'enseigner. Ça, c'est dangereux. Voilà ce qu'on veut dire. Moi, je peux apprendre de n'importe qui. J'ai pas une attitude non plus que quelqu'un qui est plus jeune que moi dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, même si j'ai une connaissance de la parole qui est beaucoup plus approfondie et beaucoup plus grand qu'un nouveau converti, je suis quand même capable d'apprendre des choses même de quelqu'un qui vient de donner sa vie au Seigneur et qui vient d'avoir une expérience avec le Seigneur, qui vient de voir quelque chose dans la parole. On peut toujours apprendre, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez appris des choses de vos enfants? Hein, ils sont des bons miroirs des fois, n'est-ce pas? On se voit en eux et on se dit, « Ah oui, maintenant je vois! J'ai des choses à changer aussi! » Amen! Ça m'est arrivé souvent, en corrigeant les enfants, que le Seigneur a dit, « Oui, c'est un bon leçon, n'est-ce pas? » « Ok, Seigneur, j'ai bien compris. Moi aussi. » Mais il faut continuer à grandir. Et ça, c'est vraiment une marque de maturité. C'est un cœur qui est assoiffé, affamé, pour une croissance spirituelle. Regardons, qu'est-ce que la parole de Dieu dit en Philippiens 1, 9. Ici dans vos notes, continuez à grandir dans l'amour. Et ce que je demande dans mes prières, c'est Paul qui prie pour les Philippiens, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc Paul priait, je veux que ton amour grandisse, que ça augmente de plus en plus. Donc, même si vous croyez être un homme ou une femme qui marche dans l'amour, je vous assure que vous avez encore de route à faire, comme moi, j'ai encore de route à faire. Amen? Et la 1231, c'est pas une place pour se stationner. C'est remorquage à vos frais. Amen? En Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12, « Et que le Seigneur fasse croître, souligne le mot croître, et abonder. » Soulignez ces mots. Croître, abonder. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Donc, on voit que notre amour doit croître, notre amour doit abonder. Un autre verset en 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité, le mot charité dans la seconde, c'est l'amour agapé, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. augmente de plus en plus. Donc encore, il faut jamais, jamais être satisfait de notre marche d'amour. Il faut toujours continuer à grandir. Dieu est amour et Dieu est grand. Amen. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a vraiment saisi tous les secrets de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a tout compris les profondeurs de Dieu? Personne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne ici qui a saisi les profondeurs de l'amour. Personne ici qui a tout compris la grandeur de l'agapé de Dieu, l'amour parfait, inconditionnel de Dieu. Mais regardons bien, un autre verset, 1 Thessaloniciens 4, 9 dit, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. » Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Donc là, Paul est en train de les féliciter. Bel job! Vous faites qu'est-ce que vous êtes supposé de faire. Vous marchez dans l'amour, vous avez un amour fraternel, et c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus. Tout le monde dit toujours plus. Regardez quelqu'un et dit, abondez toujours plus. Alléluia. Abondez toujours plus dans cet amour. Même si je suis en amour avec Dieu, je peux toujours abonder dans mon amour envers lui. J'ai encore une place d'amélioration dans mon amour pour Dieu. Amen. Même si je suis en amour avec mon épouse, ça va faire 21 ans qu'on est mariés, dans juste deux mois. On va célébrer 21 ans de mariage et je l'aime plus aujourd'hui qu'il y a 21 ans. Mais laisse-moi vous dire que j'ai encore de la place pour grandir dans mon amour pour mon épouse. J'ai besoin d'abonder toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça ne devrait pas être pris comme une pression. Oh non, le Seigneur veut que je... C'est une joie de grandir dans l'amour. Oh non, le Seigneur veut que j'aime mon épouse plus. C'est une joie, n'est-ce pas? Oh non, le Seigneur veut que j'aime mon pasteur plus. Oh, le Seigneur veut que j'aime mon patron plus. Mais là, il y a un peu moins de rire dans la salle. Abondez toujours plus dans cet amour. Je n'ai pas dit que tout le monde va devenir agréable à tes yeux. Mais tu vas comprendre l'agapé de Dieu, tu vas comprendre l'amour de Dieu, vous allez comprendre que tout le monde ici sur la planète a besoin de connaître l'amour de Jésus-Christ. Et plus nous avançons, plus nous grandissons, plus nous développons cet amour, plus on va faire du progrès sur la 231. Amen. Donc la deuxième panneau qu'on voit sur la route, c'est celui-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu cela sur la route? La vitesse tue? Qui a vu cela sur la route, hein? La vitesse tue. Pourquoi? Parce que quand on va trop vite, on peut frapper quelqu'un d'autre, on peut perdre contrôle, n'est-ce pas, de notre véhicule. Et quand on parle de l'amour de Dieu et marcher sur la 231, c'est la même chose. Quand on va trop vite, on peut finir par frapper quelqu'un avec nos paroles. Ou même des fois, il y a certaines personnes qui sont portées à la violence, ils vont même frapper physiquement des personnes, ou ils vont perdre le contrôle de leur langue, perdre le contrôle de leurs actions, perdre le contrôle de leur faculté intellectuelle, et ils vont faire des bêtises. Combien de personnes ont fait des bêtises parce qu'ils ont agi trop vite? Oh, je n'ai pas demandé que vous leviez la main. Mais si on va lever la main, moi je vais lever deux aussi. C'est juste une question en général. Combien de personnes ont fait cela? Mais je vois que tout le monde ici avait. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Soyez lent à vous mettre en colère. Pas juste lent à vous mettre en colère, mais soyez lent à réagir. On ne devrait jamais réagir, on devrait toujours agir. Il y a une grosse différence entre réagir et agir. Un exemple. Si je prendrais une sèche-cheveux, par exemple, et je brancherais ça dans la prise électrique ici, l'appareil va agir. N'est-ce pas? On va pouvoir peser sur le bouton et ça va fonctionner. Mais moi, si je prendrais une fourchette et je mettrais la fourchette dans la prise électrique, là, je vais réagir. Il y a une différence. Vous comprenez la différence? On sait tous c'est quoi de réagir au lieu de agir. On parlait de cela là, il y a deux semaines, hein, les garde-fous. Que chacun de vous soyez, que vous soyez quoi? Lent à parler, lent à se mettre en colère, mais il a dit avant que chacun de vous soyez prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Donc on a vu que Dieu nous a donné deux oreilles, juste une bouche, on devrait écouter deux fois plus qu'on parle. Et ces garde-fous-là vont nous garder en sécurité. Mais soyez lents à vous mettre en colère. Ça, c'est une caractéristique de Dieu. Psaume 145, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Combien de vous êtes contents de savoir que Dieu est lent à la colère? C'est pas un Dieu avec un bâton, un fouet qui a hâte qu'on fasse une erreur. Oh, je pense qu'aujourd'hui, il va faire quelque chose de croche et je vais pouvoir le taper sur la tête. Ça, c'est pas l'image de notre Dieu. Au contraire, c'est un Dieu de miséricorde, de compassion, qui est tellement lent à la colère et tellement rempli de compassion et de miséricorde. Et si ça, c'est la nature de Dieu, qu'est-ce qu'on a lu en 2 Pierre? C'est que nous sommes participants de la nature divine, n'est-ce pas? Donc, ma nature, le vrai Ken Taylor, est lent à la colère. Ma chair est des fois dans une autre catégorie. Mais quand je marche selon l'esprit, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Marchez pas juste selon l'esprit de Dieu, mais marchez selon votre esprit, recréé et régénéré par la puissance de Dieu et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Amen. Donc, regardons, il y a un couple de versets qui nous exhortent à marcher lentement sur la 12-31. Proverbes 6, 16 à 19 dit, il y a 6 choses que haït l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, et regarde bien, les pieds qui se hâtent. Ils vont précipiter, ils vont aller rapidement, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Ça, c'est 6 choses que Dieu haït. Il n'aime pas ça. Mais là, si Dieu n'aime pas ça, on ne devrait pas l'aimer non plus. Nos pieds ne devraient pas être rapides à précipiter. On ne devrait pas avoir hâte de courir vers le mal. Au contraire, on devrait être capable de se maîtriser et dans chaque situation de répondre et d'agir au lieu de réagir. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes capable. Je suis capable. Une chose qui m'a aidé beaucoup là-dedans, c'est de réaliser que si quelqu'un me fait quelque chose qui n'est pas correct, si quelqu'un fait quelque chose qui est frustrant pour moi, et ça c'est la chose que j'essaie de développer de plus en plus dans ma vie, c'est de réaliser qu'il ne faut pas prendre cela personnel. Combinez-vous, vous savez que des fois, ceux qui ont mal vont faire mal aux autres. Ceux qui sont blessés vont blesser les autres. Et donc, au lieu de réagir, je vais dire, bon, la personne a mal, la personne a un problème et je refuse de laisser son problème devenir mon problème. Mais le moment que je commence à réagir, son problème est mon problème. Amen? Donc, ça, c'est quelque chose à penser. Regarde bien, Proverbes 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Des fois, les hommes surtout, on a cette image de, pour être masculin, pour être un homme, il faut être tough, il faut être presque rempli de colère des fois. On laisse personne marcher sur nous, etc., etc. Et on pense que pour être fort, il faut être presque violent. Mais la réalité, c'est le contraire. Ça prend beaucoup plus de force, plus de guts, plus de tripes, on pourrait dire, pour rester calme que de réagir. Regarde, Jésus, c'est le meilleur exemple. Jésus avait l'occasion, quand il était en train d'être cloué à la croix, juste avec un mot, il aurait pu demander que 10 000 anges viennent et écraser tout le monde qui était en train de crucifier. Et il aurait pu dire, bon, tu veux voir quelque chose? Maintenant. Boum! Ils viennent et dans un clin d'œil, toutes ces personnes auraient été vraiment écrasées. Vous êtes d'accord? Mais ça a pris beaucoup plus de force, beaucoup plus de courage, beaucoup plus de tripes, on pourrait dire, pour rester cloué à la croix et de souffrir, n'est-ce pas? Donc, on voit que quelqu'un qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Proverbe 19, 11 dit, l'homme qui a de la sagesse est à la colère et il met sa gloire à oublier. Ça serait une bonne chose pour nous apprendre, oublier les offenses. Donc, Dieu dit, il faut grandir dans ces choses. Il faut aller de progrès en progrès dans ces choses. C'est quoi le troisième panneau qu'on va voir sur la 1231? Pas de demi-tour. Prochaine fois que vous voyez cela, je veux que vous pensiez à la route 1231. Que sur la 1231, on n'a pas le droit de faire demi-tour. Si on commence à aimer quelqu'un, on est supposé de l'aimer jusqu'au bout. Si on dit devant les témoins et devant Dieu, oui, je le veux, c'est-à-dire oui, je le veux jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Amen? Pas de demi-tour. Donc, jusqu'à la mort, mais ce n'est pas vous qui allez provoquer la mort. C'est bien important aussi, n'est-ce pas? Il faut juste que ça soit clair ce matin. Hein? J'ai dit jusqu'à la mort, bon. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais Dieu veut qu'on apprenne à marcher dans cet amour agapé jusqu'à la fin. C'est ça qu'il fait pour nous et c'est ça que nous sommes supposés de faire aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Regardons Galates chapitre 6, verset 9. La parole de Dieu dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Vous savez que des fois dans la vie, on est face aux situations plus ou moins évidentes et on est tenté de vouloir lâcher prise. Parce que je suis le seul qui a eu ces genres d'occasions, hein? Quand une personne, exemple, dans le mariage, quand une personne dit « oui, je le veux », souvent, c'est parce que on a deux personnes qui ont vécu le coup de foudre et qui sont en amour, mais ils n'ont jamais été obligés de vivre ensemble et de voir que monsieur laisse ses bas par terre à chaque jour et que madame fait des choses qui l'agacent, etc. Et avec les années, on découvre des choses. Et laisse-moi vous dire, même chose avec un employeur ou un employé. Souvent, on commence un travail, ça va bien au début, mais avec le temps, on voit que il y a des choses qu'on n'a pas vues au début. Avec les amis, il y a certaines choses. Plus on avance dans une relation, plus on voit la vraie personne, n'est-ce pas? Et plus on voit la vraie personne, plus on voit ses forces et plus on voit ses faiblesses aussi. Plus on voit ses qualités et plus on voit ses défauts. Et le vrai amour de Dieu, c'est un amour qui est capable de voir quelqu'un avec ses forces, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts et de l'aimer quand même. Amen. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on a besoin de faire. Pas de demi-tour. Il ne faut pas lasser. Il ne faut pas se lasser de faire le bien. Regardons 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Donc, encore une fois, l'apôtre Paul exhorte les gens. Ici, en Hébreux chapitre 12, verset 2, l'écrivain des Hébreux dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Voici la clé. Voulez-vous continuer sur la 1231? Voici la clé. Gardez vos yeux sur Jésus. Il ne faut pas garder vos yeux sur les problèmes. Il ne faut pas garder les yeux sur la personne avec qui vous voulez marcher dans l'amour. Parce que des fois, on peut être fixé sur les problèmes, fixé sur les défauts, fixé sur les failles dans la personne. Mais non, on va garder les yeux fixés sur Jésus. Et on les regarde sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Savez-vous que je vous assure, je vous promets, qu'en marchant sur la 231, vous allez avoir bien des occasions d'avoir l'âme découragée. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde infecté par le péché. Et toutes les personnes qui nous entourent sont sous construction, n'est-ce pas? Un de mes meilleurs amis, que je connais depuis l'âge de 9 ans, qui était un mentor pour moi, je suis dans le ministère même aujourd'hui, grâce en grande partie à lui. Lui, laisse-moi te dire, il était le mouton noir de sa famille en grandissant. Son père l'a envoyé à l'école militaire parce qu'il ne pouvait plus le supporter à la maison. Il avait des problèmes, ce gars. Mais quand il est venu au Seigneur, il est venu au Seigneur de tout son cœur. Il a été changé dans son cœur. Amen. Mais il avait encore bien des habitudes dans sa façon de faire, dans sa façon d'agir, dans sa façon de dealer avec les gens qui étaient blessants. Et laisse-moi vous dire une chose. Il a même dit, ma mère a dit, parce qu'il était un ami proche de la famille, qu'il a dit une fois, tu sais quoi, je pense qu'il va falloir distribuer les caches de construction à chaque fois, à tout le monde qui est dans votre entourage, parce que c'est ça, vous êtes toujours sous construction. Mais elle a compris quand même. Parce que quand il faisait des choses blessantes, elle a compris, tu sais quoi, Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Son cœur est sincère, il veut grandir. Ça peut prendre du temps, mais on va lui donner le temps nécessaire. Amen? Je suis content que les gens m'ont donné la patience et la miséricorde dont j'avais besoin. Je suis content que les gens n'ont pas lâché prise, qu'ils n'ont pas lancé la serviette quand ils ont vu Ken Taylor en train de prendre des mauvaises décisions à l'âge de 15 ans, etc., et de faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Je suis content que les gens ont dit, bon, non, on va continuer à l'aimer, on va continuer à prier pour lui, on va continuer à faire confiance à Dieu qu'il va le changer. Amen? C'est sûr que j'avais besoin de choisir et de céder ma volonté à sa volonté. Mais combien de fois on lâche prise, on lance la serviette parce qu'on est découragé? Mais la parole de Dieu dit, non, garde les yeux sur le Seigneur. C'est lui l'auteur, c'est lui le consommateur de la foi. Et si on garde la rémunération devant nos yeux, pour la joie, la Bible dit, qui lui était réservée, il a souffert la croix. On va souffrir des choses sur la 231 des fois. Notre chair ne sera pas contente, mais notre esprit va être heureux. Et si on sait que la récompense vaut la peine, amen, on va continuer, on ne fera pas de demi-tour, on continue jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous l'avez saisi. Je pense que je ressens dans mon cœur, j'ai besoin de le dire encore. Regardez-moi droit dans les yeux. Ce dont nous avons besoin plus que toute autre chose dans l'Église aujourd'hui, dans notre Église et dans les Églises, c'est les hommes et les femmes nés de nouveau qui sont prêts à prendre une décision de qualité d'aimer les frères et aimer les sœurs jusqu'au bout. De ne pas lâcher, de ne pas mettre dans la poubelle une relation juste parce que la personne a fait quelque chose qui ne fait pas notre affaire. On a besoin de prendre une décision, de dire non, je vais continuer à aimer la personne. Je n'ai pas dit qu'il faut rester dans les situations où vous êtes en train d'être abusé, etc. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut faire confiance aux personnes qui ne sont pas dignes de confiance non plus. Mais en quelque part, il faut trouver l'équilibre et savoir que les relations, ça vaut la peine de les garder. Ça vaut la peine de les cultiver. Ça vaut la peine de payer le prix pour aller jusqu'au bout. L'homme dont je parle tantôt, c'est un de mes amis le plus proche. Je le vois presque jamais. Un couple de fois, peut-être une fois chaque 2-3 ans. Mais je sais que s'il parle avec des gens, il va dire que Ken Taylor, c'est un de mes meilleurs amis. Et moi, je vais le dire aussi, on a une relation si profonde que, parle-moi pas de lui dans son dos, je vais le défendre. Amen? Et je sais qu'il va faire la même chose pour moi. On a un amour sincère et authentique. Et ça, c'est le genre d'amour qu'on a besoin de développer avec les gens dans notre entourage. Le monde va être convaincu du péché, du jugement,
quand ils voient cela. En fait, c'est ça que Jésus dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres, et si c'est un amour qui ne fait pas demi-tour, c'est un amour qui va jusqu'au bout. Amen? Prenez ça, méditez ça, mettez ça en pratique et vous allez être heureux sur votre route. Amen? Puis, dernièrement, le dernier panneau qu'on voit sur la route, c'est celui-là. Pas celui-là. Ça veut dire quoi? Céder le passage. Qu'est-ce que cela veut dire, céder le passage? C'est-à-dire que il faut penser aux autres avant de penser à soi-même. En fait, il faut donner la priorité aux autres. Vraiment, l'amour agapé est distingué d'avec toutes les autres formes d'amour parce que l'amour agapé est désintéressé. L'amour agapé n'est pas égocentré. L'amour agapé pense aux autres avant de penser à soi-même. Et si on ne veut pas avoir des accidents, qu'est-ce qui se passe sur la route si les gens refusent de céder le passage? On a des conflits, n'est-ce pas? Deux véhicules vont avoir des rencontres. Des rencontres sérieuses, n'est-ce pas? Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Si on ne cède pas le passage, on va finir avec des moments de fraternité intensif, on pourrait dire. Hein? On va arriver avec des moments où on va finir par faire mal aux autres au lieu de leur faire du bien. Regardons, il y a un couple de versets que je veux lire à propos de cela. Philippiens 2, 3 et 4 dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ça, c'est une bonne exhortation, n'est-ce pas? On a lu qu'il ne faut pas se stationner sur la 12-31. Il faut continuer à grandir. Il faut que l'amour de Dieu soit augmenté de plus en plus dans notre vie. Et je sais que moi, j'ai encore du progrès à faire dans ce domaine, de toujours penser aux autres avant de penser à soi-même. Notre société, notre monde, la nature du péché, c'est d'être égocentré. N'est-ce pas? Moi, je, mes affaires, mes problèmes. Mais regardons bien, Philippiens 2, 20 et 21 dit, Paul parlait, il disait, « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Donc ça, c'est sérieux. Paul est en train de dire que sur toutes les personnes qu'il connaissait, les collègues de travail même, etc., c'était rare de trouver quelqu'un qui était désintéressé. Le norme, qu'est-ce que Paul a vécu? Le norme, c'était de voir des personnes égocentrées qui pensaient seulement à leurs propres besoins. C'est triste, n'est-ce pas? Mais je pense, pour être honnête, ce n'est pas beaucoup différent aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Je pense que ce n'est pas une question là. Je ne veux pas que vous pensiez à votre épouse, votre mari, votre ami ou qui que ce soit. Je veux que vous pensiez à vous-même. Moi, je veux penser à moi-même. Et on va se poser la question sur une base régulière. À chaque jour que je me lève le matin, à qui est-ce que je pense avant de penser aux autres? Avant de penser à qui que ce soit? Est-ce que je pense aux autres ou est-ce que je pense à moi-même? Est-ce que je pense à Dieu d'abord et ensuite, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Utilise-moi, Seigneur, que je sois un instrument de justice aujourd'hui pour bénir mon entourage. Laisse-moi vous dire une chose qu'on a découvert. C'est que quand on vit pour bénir les autres, on est béni. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, n'est-ce pas? Et quand vous vivez pour les autres vont vivre aussi pour vous. Je n'ai pas dit que ça va toujours le cas, du jour au lendemain, et que chaque personne va répondre de la bonne façon, mais laisse-moi vous dire, comme on a vu, que si vous ne lassez pas, vous allez récolter au bon moment. Amen. 1 Corinthiens 13, 5 dit, « Il ne fait rien d'inconvénient. » On parle de l'amour de Dieu. « Il ne cherche pas son propre intérêt. » 1 Corinthiens 10, 23 dit, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Souvent, les personnes viennent me voir et disent, mais est-ce que c'est correct si je fais telle chose? Est-ce que c'est un péché de participer à une telle activité? Voici la meilleure réponse qu'on peut donner. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Ça, c'est une bonne définition de marcher dans l'amour. Je ne pense pas à moi-même, je pense au corps de Christ, je pense à mon entourage. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider? En fait, c'est Paul qui a dit, verset 32, « Ne soyez un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui de plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Tu vois? Ils cherchaient pas, cherchant non pas mon avantage, mais celui de plus grand nombre. Et ça, c'est marcher dans l'amour. Céder le passage, donner la priorité aux autres. C'est pas une question de « Oh, mais c'est correct. » Souvent, je vois des personnes, et je sais pas, mais peut-être quelqu'un a besoin d'entendre cela ce matin. Je vais le dire. Souvent, on voit des personnes dans les églises qui vont faire les choses qui sont un peu grises. Vous comprenez? La Bible ne dit pas forcément « Fais pas ça », sauf que ça devient une pierre d'achoppement pour les autres. Hein? C'est pas tout à fait pour la gloire de Dieu que vous le faites. Et quand vous le faites, vous voyez d'autres personnes qui sont scandalisées par vos actions, par vos attitudes, par vos paroles ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui arrive souvent? Les gens disent, mais écoute, qui s'occupent de leurs propres affaires, ce n'est pas de leurs affaires, qu'est-ce que je fais? Ça, ce n'est pas une attitude d'amour. Une attitude d'amour, c'est, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce que tu veux que j'agisse? Est-ce que mes actions vont bénir mon entourage? Ou est-ce que mes actions vont être une pierre d'achoppement pour les autres dans mon entourage? Tout est permis, mais tout n'est pas édifiant. Amen? Donc, posez-vous la question. Quand vous parlez, quand vous fassiez quoi que ce soit, est-ce que vous le faites par l'amour ou est-ce que vous le faites par égoïsme? Romains 14, 15 dit, « Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Vous êtes débarqué de la 1231. » Amen? Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Pourquoi est-ce qu'il parle des aliments? Parce que à l'époque, des personnes faisaient des sacrifices des animaux aux idoles. Et ensuite, ils vendaient cette viande dans les marchés publics. Et donc, ça arrivait assez régulièrement qu'une personne pourrait dire, « Bon, on va souper ce soir et ça, c'est de la viande qui a été sacrifiée à un idole. » Paul disait que si on mange de la viande, et il y a d'autres chrétiens, d'autres personnes qui sont présents et ils nous voient manger cette viande sacrifiée aux idoles, que ça peut être une pierre d'achoppement pour eux. Ça peut les causer de chuter. Aujourd'hui, on n'a pas ce problème, mais on a d'autres choses. Que ce soit la consommation de l'alcool, que ce soit d'autres choses dans votre vie. Laissez-moi vous dire, posez-vous la question, quand vous faites quoi que ce soit, pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pour moi-même, pour mon plaisir, ou est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu? Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Cédez le passage, donnez la priorité aux autres et faites sûr et certain que vous ne faites rien pour scandaliser vos frères et vos sœurs dans le Seigneur. Ça, c'est marcher dans l'amour. Amen. Alléluia. Moi, laisse-moi vous dire, je vais juste donner un exemple de cela. J'ai un ami qui était pasteur au Missouri et lui, il avait dans son ancienne vie du pêcheur, il avait une réputation comme un animal du parti. C'est lui qui était toujours la vie du parti, qui avait des mauvaises habitudes, qui consommait beaucoup, et etc. Mais il est venu au Seigneur, le Seigneur l'a délivré de toutes ces choses, il est devenu pasteur. Mais lui, il avait une sorte de liqueur qu'il aimait tellement. C'était une racinette qui venait dans les bouteilles qui ont l'air d'une vraie bouteille de bière. Et là, il est allé au dépanneur un jour, il faisait chaud au Missouri, probablement, au Missouri, ça peut facilement faire plus de 100 degrés Fahrenheit, des fois, et il sort du dépanneur avec sa racinette, belle journée, et il voit à quelques pieds de lui plusieurs gars qu'il connaissait quand il était à l'université, et des personnes avec qui il faisait souvent des parties, et il faisait toutes sortes de choses avec lui qu'il ne devrait pas faire. Et dès qu'il est sorti, le Saint-Esprit lui a dit, « Regarde ce qu'il y a dans ta main. » Et c'est comme il voyait dans son esprit. Tu sais, eux autres, ils ne savent pas que c'est une liqueur. Eux autres, ils vont penser que c'est une bière. Et là, ils savent maintenant que tu es pasteur. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Oh ben là, dans le fond, il n'a pas vraiment changé. Il fait la même chose là qu'il faisait autrefois. Donc, par amour, il a pris une décision parce qu'il aimait ça. Et si vous avez goûté à cette marque de racinette, vous allez comprendre. C'est IBC, c'est super, c'est le meilleur. Mais pour lui, dans sa situation, dans sa position, dans le contact qu'il avait avec le monde, il s'est rendu compte que, tu sais quoi? Même si j'aime ça, j'aime vraiment ça, et il n'y a rien de mal là, boire une liqueur, il n'y a pas un péché là. Il n'a pas dit, mais qui est-ce qu'ils sont pour me juger? Non, il a dit, non, je ne veux rien faire pour les empêcher de venir au Seigneur Jésus. Je ne veux pas donner la moindre occasion à l'ennemi de défaire mon témoignage devant eux, parce qu'ils ont besoin de connaître Jésus-Christ. Donc, le Seigneur, jamais plus, je ne vais jamais plus acheter ça. Ça, c'est un exemple banal, stupide, on pourrait dire. Mais non, c'est une façon qu'il a cédé le passage aux autres. Il a dit, tu sais quoi, je suis là sur la terre pour gagner les âmes. Et si ça va empêcher les âmes à venir à Jésus, je suis prêt même à me débarrasser. Comme Paul a dit, je mangerai plus de, si nécessaire, je mangerai plus de viande, je boirai plus de vin, parce que je veux sauver le plus grand nombre. Et c'est ça l'attitude qu'on a besoin de développer. Pas devenir légaliste. C'est pas à moi de décider qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Mais c'est à chacun de nous de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour rester sous la 231, pour donner un bon témoignage à mon entourage, pour sceller le passage. Amen. Défense de stationner. La vitesse tue. Pas de demi-tour. Et finalement, céder le passage, donner la priorité aux autres. Si on pourrait mettre ces quatre choses en pratique, on va rester sur la 231, on va faire du progrès dans notre vie chrétienne, le monde qui nous entoure va voir la réalité de Jésus dans nos vies et on n'aura plus de place dans l'Église pour les continuer. Amen. Alléluia. On va se lever debout, on va prier ce matin. Alléluia. Dieu est bon. Combien de vous êtes encouragés ce matin de rester sur la 1231 et de vous conduire avec sagesse? Alléluia. Alléluia. Père, au nom de Jésus, nous te remercions. Je t'avais tous les yeux fermés ce matin. Alléluia. Vous savez que la route 1231, c'est une route surnaturelle. Il est impossible de marcher dans l'amour agapé, à moins que l'amour agapé soit répandu dans son cœur. C'est pourquoi chaque dimanche matin, quand on vient ensemble, je donne toujours une occasion aux gens qui sont ici présents d'ouvrir leur cœur et de laisser le Seigneur changer. La Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. C'est une promesse. Le salut, c'est un don gratuit qu'on ne peut pas mériter. Et quand le Seigneur Jésus vient et habite dans notre cœur, le Saint-Esprit est répandu dans notre cœur et l'amour de Dieu est répandu dans notre esprit et nous devenons les participants de la nature divine. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment, nous recevons la capacité de marcher dans l'amour, sur la 1231. La première question que je veux vous poser, est-ce que vous êtes ici ce matin et peut-être, si vous êtes honnête, vous direz, pasteur, moi je ne sais pas, je ne suis pas convaincu que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Je n'ai pas l'assurance d'être sauvé aujourd'hui parce que je n'ai jamais vraiment prié et ouvert mon cœur à lui. Je n'ai jamais confessé avec ma bouche, je n'ai jamais cru dans mon cœur. Donc, je ne suis pas sûr que je suis né nouveau, mais j'aimerais. Si vous êtes là ce matin et vous croyez que Jésus est vivant, vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre, qu'il a vécu sur la terre une vie parfaite sans jamais pécher, qu'il a pris vos péchés sur lui-même. Il a pris votre place comme un substitut. Si vous croyez que, en se laissant clouer à la croix, qu'il était en train de payer pour vos péchés, si vous croyez qu'il était enterré et 3 jours après, ressuscité d'entre les morts. Si vous croyez à cela et vous croyez que vous avez besoin de le recevoir comme votre sauveur, votre maître, j'aimerais vous donner cette occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, oui, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux sortir d'ici sachant, sans aucune doute, que je suis chrétien, que Jésus habite dans mon cœur, que je suis une nouvelle création en lui et que l'amour de Dieu est dans mon cœur. Juste lavez la main. Si vous êtes là et vous avez besoin de donner votre vie à Jésus. Il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alléluia. 2 personnes. C'est important parce que Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père qui est au ciel. Jésus a dit en Marc 8, 38 que ceux qui ont honte de lui dans cette génération, que lui aussi il aurait honte d'eux. Donc il ne faut pas avoir honte de Jésus. Donc ici nous sommes dans l'église même, et tout le monde ici, nous vous aimons et nous aimons Jésus. Donc si vous êtes si vous n'êtes pas capable de confesser Jésus là, vous allez avoir de la difficulté à confesser Jésus en dehors de l'Église. Mais la deuxième invitation que je vais donner, parce que comme j'ai dit, la route 1231, c'est une route surnaturelle. Et je sais que même si vous êtes né de nouveau et votre esprit est régénéré et le Saint-Esprit habite dans votre cœur, que vous avez quand même besoin de recevoir ce que la Bible appelle d'être l'expérience d'être revêtu de la puissance d'en haut, d'être rempli du Saint-Esprit, comme on voit en Actes 2, 4, il fut tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en langue, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Comme on voit en Actes 10, 9, 6, quand Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit est venu sur eux et ils se mirent à parler en langue et de prophétiser. Et on voit plusieurs exemples de comment le Seigneur a rempli les personnes jusqu'à déborder avec la présence de l'Esprit Saint. Parce que quand on prie en notre langue, notre esprit est en prière, mais notre intelligence demeure stérile. Et notre esprit est édifié, notre cœur, là où se trouve l'amour de Dieu, l'endroit où l'amour est répandu, est édifié. C'est comme si on peut se recharger comme une batterie a besoin d'être rechargée. Donc la deuxième invitation ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui aimerait avoir cette expérience, qui aimerait recevoir? Il y a une personne, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Juste lever la main si vous avez besoin de cela. C'est une chose qui vous appartient. Je vais demander à ces 3 personnes qui ont levé la main tout de suite, juste de venir vite, vite ici en avant. On va prier pour vous. Soyez courageux. Venez, on va confesser Jésus. Mais je vais prier avec vous, avec tous les autres yeux fermés. Mais venez ici en avant, on va prier ensemble. Tiens, il y a 2 autres qui ont levé la main. Et si vous n'avez pas levé la main, mais vous aurez dû, il me semble qu'il y avait quelqu'un d'autre. Soyez pas gênés. Approchez-vous ici, s'il vous plaît. On va prier pour vous ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Encore, je trouve que c'est important ce matin que tu prends cette occasion de prier et de confesser Jésus. Comme il a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Donc, qu'est-ce que vous avez fait là en prenant ici la décision de venir ici en avant? Ça a pris du courage. Le Seigneur va honorer cette décision. Il va vous rencontrer là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre qui a levé la main. Juste venez. Soyez pas gênés. Oui, il s'en vient. Viens-t'en. Alléluia. Dieu est bon. Ça a pris du courage, mais le Seigneur est bon. Donne-moi ton nom.
Alain.
Et toi, c'est?
Éric.
Éric. Est-ce que c'est la première fois que vous donnez votre vie à Jésus ce matin?
Oui.
Oui, pour toi, lui, pour lui, c'est une vraie consacration. Mais vous savez que nous avons des personnes, des préposés qui sont formés, qui sont prêts à répondre à vos questions, de prier avec vous. Nous avons juste une petite salle de prière, juste ici en arrière de cette porte où c'est tranquille. Vous allez pouvoir prier avec eux dans une minute. Ils vont pouvoir répondre à vos questions. Nous avons aussi une Bible qu'on veut vous offrir gratuitement. Et si vous n'avez pas déjà une Bible, donc c'est notre don. Pour vous encourager, alors, il y a d'autres personnes. Donc, venez ici en avant. Alléluia. Mais on va prier une prière ensemble. Et ensuite, je vais vous inviter à aller avec ces conseillers dans la salle de prière. Ils vont répondre à vos questions, vous donner la Bible. prier pour vous puissiez recevoir tout ce que vous avez besoin. Mais c'est une bonne décision que vous avez prise. Ça a pris beaucoup de courage, mais le Seigneur va honorer ce pas de la foi. Et en fait, la Bible dit que si un pécheur se répand, que tous les anges des cieux se réjouissent. Amen. Et on va prier cette prière. Donc, répétez cette prière après moi. J'aimerais que tout le monde prie cette prière avec moi. Père Céleste,
au nom de Jésus,
je viens à toi et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort pour moi, qu'il était enterré et ressuscité. Et je confesse avec ma bouche qu'à partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour lui. Merci Seigneur, que je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées.